Bonjour à chacun de vous et bienvenue à vous qui nous visitez ou qui êtes là pour la première fois ce matin. Alors j'espère que le Seigneur m'a inspiré avant maintenant dans la préparation de ce que j'ai à vous dire. Je crois qu'il le fait quand on le lui demande et souvent on s'aperçoit que nos cultes, alors que les différentes personnes qui interviennent ne se sont pas concertées, ces cultes forment comme un ensemble et je crois que c'est aussi le cas ce matin, comme j'espère vous allez vous en rendre compte. Et d'ailleurs même le verset qui a été mis là pour aujourd'hui rentre bien dans ce que je souhaite partager avec vous au cours de cette méditation. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 18. Actuellement dans mes lectures quotidiennes, je suis dans les psaumes et il m'arrive fréquemment de relire plusieurs fois le même psaume, de le méditer et d'en retenir ce qui, je crois, me vient aussi du Seigneur. Alors ce psaume 18, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le psaume 18 est assez long, nous n'allons pas le lire, il a une cinquantaine de versets, je vous inviterai à le lire chez vous. Et à aussi le lire plusieurs fois, mais nous n'allons pas non plus le commenter, certains de ces passages sont peut-être un petit peu difficiles, ça nous prendrait trop de temps ce matin, mais nous allons essayer d'en retirer ce que Rabelais a appelé la substantifique moelle. Alors c'est juste quelques versets que j'aimerais faire ressortir de ce psaume, et en particulier le premier verset, ou le verset 2, qui a attiré mon regard, c'est cette parole un peu spontanée de David, comme sont, je l'espère, toutes nos paroles d'amour. Il dit, donc David dit, « Je t'aime, Éternel, ma force. » Il me semble que nous avons très peu de ces manifestations de l'amour pour l'homme, de l'homme pour Dieu, de cette façon de s'exprimer en disant à Dieu « Je t'aime ». Alors, bien sûr, il y a le psaume 116, verset 1, qui dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix ». Il y a la réponse, sans doute un peu agacée, de l'apôtre Pierre, à qui le Seigneur, par trois fois, lui demande « Mais m'aimes-tu ? » Et lui répond « Mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Mais dans l'ensemble, il me semble que nous avons peu de sentiments d'amour exprimés pour Dieu dans la Bible. Alors bien sûr, il y a la louange, il y a l'adoration qui sont de ces expressions d'amour, et en particulier dans les psaumes. Et pourtant, c'est bien une relation d'amour que Dieu a voulu avec son peuple. Non pas l'accomplissement de rites froids, obligatoires, mais une relation d'amour. Et déjà, le livre de la loi, le livre du Deutéronome en particulier, exprime par ces mots d'amour ce que doit être la relation du peuple de Dieu avec son Dieu. Parole que Jésus a reprise comme étant l'essentiel de la relation avec Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. En revanche, le Seigneur ne se prive pas de manifester ses sentiments d'affection et même de tendresse envers son peuple, au point de se comparer à un mari bienveillant, toujours amoureux de sa femme. Et tout un livre de la Bible, non pas le Cantique des Cantiques, mais le livre du prophète Osée, évoque cette relation d'amour que Dieu recherche avec son peuple qu'il a abandonné, comme on peut abandonner un mari ou une épouse. Et dans ce psaume 18, cette parole spontanée de David, « Je t'aime, Éternel », appelle à mes yeux deux remarques. La première, c'est que cette parole est le fruit d'une reconnaissance envers Dieu. qu'il a délivré de tous ses ennemis. C'est ce que nous dit l'introduction de ce psaume. Vous savez, parfois nous avons des introductions dans nos Bibles ou des têtes de chapitres qui ne sont pas dans le texte biblique lui-même. Ce sont c'est les éditeurs qui les ont apportés. Par exemple, je ne sais pas, parabole du bon grain et de l'ivraie. Voilà, ça c'est pas l'évangéliste qui l'a mise, mais c'est l'éditeur pour un petit peu aérer le texte. Mais ici, dans ce psaume 18, ce qui introduit le psaume vient du texte biblique lui-même. Il est intéressant de remarquer que ce psaume 18 est une copie, on pourrait dire, ou on dirait aujourd'hui un copier-coller, à quelques variantes près, d'un cantique de reconnaissance de David qu'on trouve déjà dans 2 Samuel chapitre 22. Après la délivrance que David a obtenue de chasse à l'homme exercée par le roi Saül, David est délivré de ses ennemis et dans 2 Samuel 22, il livre ce cantique de reconnaissance. Et nous l'avons de nouveau ici dans ce psaume 18. Cependant, 2 Samuel 22 ne contient pas cette phrase « Je t'aime, Éternel, ma force ». Alors j'ai comme l'impression que cette phrase a été ajoutée par David, ou peut-être par le rédacteur de son entourage, qui a repris ce poème pour le classer dans ce genre de recueil qu'on appelle le psautier. Et la question qui vient à l'esprit est celle-ci, mais pourquoi l'avoir fait ? Pourquoi avoir ajouté cette phrase « Je t'aime, Éternel, ma force » par rapport au texte précédent ? Alors bien sûr, on n'a pas de réponse à cette question. Mais on peut supposer que David, au moment où il reprend ce psaume, c'est ce poème où il réécrit ce psaume, a tenu à décrire ses sentiments, à dire fortement, au début, qu'il aimait, qu'il avait des sentiments d'affection pour le Seigneur. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que le verbe que David emploie, ici, « je t'aime », aimer, le verbe aimer, est un verbe très rare. Ce n'est pas le verbe habituel dans le texte de l'Ancien Testament en hébreu. Il n'est pas employé d'habitude. Et Luther, le grand Martin Luther, qui a traduit la Bible en allemand au XVIe siècle, et qui a ainsi forgé d'ailleurs la langue allemande, Luther, quand il a traduit la Bible donc au XVIe siècle, s'est bien rendu compte de cette différence entre ce mot et les autres mots. Alors il a traduit, je pense que Gilles et nos amis alsaciens vont comprendre, herzlich. Ich habe dich, Herr, meine Stärke. Herzlich. Il a ajouté ce mot, herzlich, c'est-à-dire affectueux, affectueusement, de tout cœur, cordialement, sincèrement. Et on peut donc traduire, à la suite de Luther, que David a dit « Je t'aime affectueusement » ou « Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, ma force. » Et c'est bien, je crois, ce que ce verbe veut dire. David avait pour son Seigneur une profonde affection. Il aimait Dieu de tout son cœur et il a voulu le dire, voilà, au début de ce psaume, ce qui n'avait pas été dit dans 2 Samuel, chapitre 22. C'est une telle relation que Dieu souhaite que nous ayons avec lui, une relation d'affection. Alors nous arrive-t-il de dire, je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière et cela m'a fait chaud au cœur, « Seigneur, je t'aime ». Et à la suite de David, on peut dire « Seigneur, je t'aime profondément, je t'aime de tout mon cœur, toi qui es ma force. Et on est loin d'une relation rituelle ou d'une vénération faite uniquement de gestes qui s'apparentent au devoir ou à la corvée, un peu comme on paye ses impôts. David dit bien que cette relation d'affection est partagée aussi par le Seigneur. Au verset 20, nous lisons ceci. « Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. » Autrement sous-entendu, il m'a fait sortir de mes difficultés, de mes épreuves, pour me mettre à l'aise. « Il m'a retiré, car il m'a pris en affection. » Cette affection que nous avons pour le Seigneur est partagée par le Seigneur lui-même. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître en parlant de Dieu. Il dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors comment se manifeste l'amour que David a pour son Dieu ? Et j'aimerais explorer quatre pistes que je dégage de ce psaume 18. Premièrement, aimer Dieu, c'est lui faire confiance. C'est s'appuyer sur lui. Et le mot « rocher »,« roc » revient à plusieurs reprises dans ce psaume, au verset 3, au verset 32, au verset 47. Et quand David dit que Dieu est un rocher, il veut dire par là qu'il est un appui solide, quelqu'un sur qui il peut compter. Quel privilège d'avoir un Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer. Les personnes âgées s'appuient sur des cannes ou sur des déambulateurs. Nous nous appuyons tous, quel que soit notre âge, sur le Seigneur. Nous avons besoin de sa force. Aimer Dieu, c'est donc se reposer sur lui, lui faire confiance. Ce n'est pas toujours facile, car nous sommes vite submergés par nos soucis, nos doutes, nos inquiétudes. Mais quand on connaît quelqu'un de façon intime, comme on peut connaître le Seigneur, on sait si on peut compter sur sa force ou pas. Avec Dieu, c'est toujours possible de se reposer sur lui, de lui faire confiance pour dénouer nos problèmes, pour aplanir notre sentier. C'est l'expérience de David, d'où ce cantique de reconnaissance et d'amour profond pour le Seigneur. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est garder ses voies. Versets 22 et 23, et je vous les lis dans la traduction appelée Nouvelle Bible Second. « Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. » J'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu. Alors qu'est-ce que marcher dans les voies du Seigneur ? C'est, je crois, obéir à sa parole, c'est être sensible à son esprit, c'est chercher à lui être agréable. Et à plusieurs reprises dans ce psaume, David mentionne sa pureté. Comme au verset 21, 24 et 25, je vous les lis. « L'Éternel m'a traité selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai gardé les voies de l'Éternel. J'ai été intègre envers lui, et je me suis tenu en garde contre ma faute. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. » Il n'y a pas là de présomption, d'outrecuidance. David ne se fait pas passer pour ce qu'il ne serait pas. Je crois qu'il y a chez lui un désir, chez David, un désir d'être fidèle au Seigneur, d'être fidèle à sa parole, de lui obéir, tout en reconnaissant bien sûr qu'il est aussi pécheur, mais de respecter les commandements de Dieu, de rester dans la pensée du Seigneur, et c'est ce qu'il exprime ici, dans ces versets 21, 24 et 25, et je crois que si on aime le Seigneur profondément, on veut lui être agréable, lui faire plaisir, obéir à sa parole. Troisièmement, aimer Dieu, c'est marcher dans la lumière. Verset 29, C'est toi qui fais briller ma lumière, éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Chacun sait, et c'est notre expérience à tous, que dans la nuit, quand notre chemin n'est pas éclairé, on peut trébucher, on peut heurter un obstacle et se faire mal. Et on a besoin d'une lampe qui éclaire notre route, autrefois comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des lampes électriques à piles. Autrefois, c'était des lampes à huile. Et au psaume 119, verset 15, je crois, je le cite de mémoire, il y a cette magnifique parole, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». C'est cette parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous montre la route à suivre, celle qui nous permet de marcher dans la lumière de Dieu. Et Jésus a dit, Jean 8, 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Autrefois, nous étions ténèbres dans les ténèbres. Maintenant, nous marchons en nouveauté de vie dans la lumière. » Et l'apôtre Jean, 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » Ce qu'il y a de remarquable, et c'est le cas aussi avec d'autres textes de l'Écriture, c'est que notre relation avec Dieu, marcher dans la lumière de Dieu, être conduit par la lumière de Dieu, nous permet aussi d'être dans la lumière les uns avec les autres et de marcher en communion les uns avec les autres. Et l'apôtre Jean écrit encore au chapitre 4 de sa première épître, au verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Voilà une répercussion directe de l'amour que nous avons pour Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ses frères. Marcher dans la lumière. Puis quatrièmement, aimer Dieu, c'est se savoir être grand, grandi. Bien des chrétiens ne se rendent pas compte de la place qu'ils occupent auprès de Dieu ou en Dieu. Certains ne croient pas qu'ils sont aimés de Dieu d'un amour fou. Mais non seulement ils sont aimés de Dieu d'un amour incommensurable qu'on ne peut pas mesurer, mais ils sont appelés enfants de Dieu alors qu'ils ne l'étaient pas. Et l'apôtre Paul ajoute, héritiers de Dieu et co-héritier de Christ, d'un héritage que Madame Bettencourt pourrait envier. Je cite Madame Bettencourt parce que j'ai appris, je n'ai rien contre elle, hein. Je ne la connais pas, mais j'ai appris que c'était la dame la plus riche de France. D'un héritage que sa fille convoite, hein. Mais bon, ça c'est une autre question, mais d'un héritage que notre monde ne peut pas donner. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et l'apôtre Jean, toujours, qu'on a appelé l'apôtre de l'amour, chapitre 3, verset 1er, nous dit, « Voyez, quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Je reviens au psaume 18, verset 36. La Bible à la colombe dit ceci, mais je citerai encore deux autres traductions. « Ta droite me soutient. » La droite, c'est le bras fort. Hein. Ça veut dire « la force de Dieu me soutient. » « Ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. » Alors la mansuétude, c'est la disposition à pardonner généreusement. Dieu a de la mansuétude pour chacun d'entre nous. Car Dieu ne peut faire autrement que de nous pardonner, puisque nous sommes pécheurs et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Mais sa mansuétude, sa disposition à pardonner généreusement, me fait devenir grand. Et la Bible, Nouvelle Bible Seconde, traduit ainsi, ta main droite me soutient et ta réponse me grandit. Et la Bible du Semeur, ta droite me soutient, par ta sollicitude, tu me rends fort. La sollicitude, c'est l'attention de Dieu, cette attention affectueuse qu'il a pour chacun d'entre nous. Tu me rends fort, tu me grandis, tu me fais devenir grand. Oui, Dieu nous aime comme nous sommes, avec nos défauts, avec notre caractère. Il nous aime comme personne ne nous aime ou comme personne ne pourrait nous aimer. Et cette seule pensée d'être ainsi aimé de Dieu nous grandit à ses yeux et à nous-mêmes. Alors ne nous déprécions pas, comme nous avons parfois tendance à le faire, aux yeux de Dieu. Bien sûr, nous sommes toujours un petit grain de poussière perdu dans l'univers, mais aux yeux de Dieu, nous sommes aimés. Et parce que nous sommes aimés, nous sommes grands à ses yeux. C'est-à-dire qu'à ses yeux, nous avons une valeur inestimable. Cela a été déjà dit tout à l'heure, on se répète. Mais il est bon de répéter ces paroles qui nous font du bien. Et ce verset nous invite aussi à devenir grands, à grandir dans la connaissance de ce Dieu qui nous aime, c'est-à-dire avoir une intimité plus profonde avec lui. Vous qui avez quelques années de vie chrétienne derrière vous, avez-vous grandi dans le Seigneur? Êtes-vous plus grand, plus intime avec le Seigneur? Êtes-vous devenu un modèle qui donne envie aux autres de connaître Dieu comme vous le connaissez? Parce que, en grandissant, vous ressemblez de plus en plus au Seigneur. En se sachant aimé de Dieu, en aimant, je dirais, passionnément et même amoureusement le Seigneur, la qualité de notre amour les uns pour les autres devrait s'en ressentir. Alors je conclus. Aimer Dieu, c'est se savoir aimer comme personne d'autre nous aime. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance, s'appuyer sur lui, il est le Dieu des délivrances. Aimer Dieu, c'est chercher à lui plaire, à lui ressembler. C'est à marcher dans la lumière, lumière de Dieu sur notre route, lumière qui nous conduit sur le chemin de la vie. Et je conclus avec deux autres versets tirés de ce psaume 18, le verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Peut-on chercher d'autres rochers que le Seigneur lui-même? Il est le seul, l'unique, le solide, le rocher de notre vie. Et ce psaume conclut avec ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire qu'il rend gloire, il rend grâce à Dieu, et c'est exprimé ainsi, et je trouve que c'est très bien dit, au verset 47, « Vive l'Éternel! Vive l'Éternel! Et béni soit mon rocher. » Il vaut la peine d'aimer de tout notre cœur, profondément, un tel Dieu. Amen.